Cobuzz.com. Rencontre par Yves Riesel.
Bonjour, bonsoir, merci d'être fidèle aux rencontres podcast de Cobuzz et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Michel Molcou. Jean-Michel Molcou vient de signer aux éditions Buchet-Chastel un livre tout simplement intitulé « Les grands violonistes du XXe siècle ». C'est un projet en deux tomes, dont le premier part de Kreisler et termine à Kremer. Et donc, ce qui veut bien dire que ensuite nous aurons un deuxième tome avec des violonistes plus contemporains. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Yves.
Merci de nous avoir visités. Alors, ce projet en deux tomes, ça va être difficile le deuxième tome lorsque vous allez devoir peut-être encore plus prendre position dans des choix. Il va falloir être il va falloir supprimer des gens, ne pas les mettre, ne pas les retenir. Comment allez-vous faire ?
Vous mettez le doigt sur le problème le plus épineux du deuxième tome. Car autant l'histoire a fait son tri dans les violonistes nés à la fin du 19e siècle et qui ont exercé leur art tout au long du 20e siècle, autant elle n'a pas encore fait son tri sur ceux que le recul de 10 années du 21e siècle nous permet d'apprécier. Et il est vrai que ma borne haute sera difficile à déterminer. En effet, pour avoir été un grand violoniste du XXe siècle, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un petit peu le recul du XXIe siècle pour considérer que quand à 20 ans, en l'an 2000, on était déjà internationalement connu et qu'on avait une belle discographie, on était devenu un grand violoniste. C'est possible. Mais il est certain que les choix seront peut-être encore plus personnels, mais je les expliquerai très clairement dans l'introduction.
Parce que, bon, on peut, par exemple, penser de manière un peu rapide qu'on a tendance aujourd'hui à fabriquer des stars en deux temps, trois mouvements. En même temps, quand on regarde le premier volume et les grands violonistes du passé, énormément d'entre eux ont connu la gloire très jeune, même en tant qu'enfant prodige. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau.
Non, pas du tout. Il n'y a pas dans l'histoire de grands violonistes qui n'aient été un enfant prodige. Même ceux qui s'en défendaient, comme Nathan Milstein, qui considérait qu'il n'était pas un enfant prodige et qui pourtant jouait le concerto de Glazounov à 10 ans sur scène sous la direction du compositeur. Ils l'ont tous été, forcément. Je crois qu'il faut avoir grandi avec l'instrument. C'est fondamental. Il n'y a pas d'exemple de gens qui se soient mis tardivement à l'instrument et qui aient fait une grande carrière.
En général, dans les instruments, mais en tout cas, oui. En particulier pour le...
Pour les cordes.
Pour les cordes et pour...
Ne
les...
serait-ce pour que pour la justesse, la qualité d'intonation. Et je pense qu'il faut que les articulations, les ligaments et beaucoup de réflexes grandissent avec le jeune interprète.
Alors justement, donc, et pour ne pas aborder, puisqu'il n'est pas encore paru, le deuxième volume, juste essayons de voir ce qui est finalement différent dans la vie et dans la manière de développer son art de ce qui serait un jeune violoniste aujourd'hui et de ce que fut la jeunesse et ce que furent les conditions de développement intellectuel et artistique de ces gens-là.
Alors, j'explique dans l'introduction, que je recommande aux lecteurs de lire avant tout autre portrait, que ce qui sépare les violonistes du XXe siècle et ceux des siècles précédents, c'est l'enregistrement. On est passé de la préhistoire à l'histoire. C'est-à-dire que tout d'un coup, au lieu d'avoir des écrits sur le jeu de Paganini, de Rod ou de Viotti, on a des enregistrements qui vous permettent de juger de tous les détails du jeu d'un violoniste. Le vibrato, l'attaque, la qualité d'intonation, la métrique, etc., etc. À l'époque, ils ne pouvaient pas s'entendre les uns les autres, ou très peu, à l'occasion d'un concert, d'un salon, d'une rencontre, d'une joute. Mais la diffusion de l'enregistrement n'avait rien de comparable avec ce qu'elle est aujourd'hui.
Et même juste encore très tard, on peut même se dire que jusqu'à la fin des années 50, et même au cours des années 60, on disait « Ah oui, c'est un disque, tu l'as trouvé, c'est formidable, moi j'arrivais pas à le trouver ». Aujourd'hui, tout est accessible très très facilement, mais ce n'était même pas le cas encore dans les années 60.
Non, c'est vrai, mais...
À l'époque, bien sûr.
Menuhin raconte, par exemple, qu'avant de faire ses premiers enregistrements de Kreisler, il s'est imbibé des 78 tours du maître. Ne serait-ce que pour comprendre de quoi était fait son charme. Et je crois qu'à partir du moment où il a été possible d'écouter et de réécouter autant de fois que nécessaire le jeu d'un violoniste, il a été possible de s'en inspirer. Et c'est pour ça que certaines personnalités ont été gommées et il est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'identifier à l'oreille un grand soliste qu'il l'était au début du XXe siècle. Par exemple, la sonorité de Huberman, le jeu de Nathan Milstein ou celui de Heifetz sont des choses faciles à identifier pour peu qu'on ait une oreille exercée et qu'on s'intéresse au sujet. Mais aujourd'hui, différencier les violonistes est plus difficile. Ils sont passés par des canons esthétiques que leur ont imposés les concours internationaux, les grandes écoles. Et l'individualité s'est un peu perdue. Ça ne veut pas dire que ce sont de moins bons musiciens. Ça ne veut pas dire que ce sont de moins bons techniciens, parfois au contraire.
Ça ne veut pas dire non plus que les vraies personnalités ne vont pas
passer
à travers ça et Absolument.
Guidon Kremer, qui est d'ailleurs le dernier héros de mon premier tome, en est l'illustration. Je veux dire, il n'est comparable à aucun autre. Donc, il y a une sorte, non pas de standardisation, mais de modélisation un peu, du beau son, de la technique exceptionnelle, etc. Ce qui fait que les défauts qu'on pouvait, entre guillemets, trouver dans le jeu des uns ou des autres, au début du XXe siècle, ne pourraient plus passer aujourd'hui. Et Jacques Thibault était un prince du charme, était un merveilleux violoniste, mais qui n'avait pas toujours, je dirais, une rigueur absolue en matière d'intonation ou de métrique. Aujourd'hui, ce serait très très difficile promouvoir une très grande carrière sur ce genre de critères, et je dois dire que c'est à la fois un peu dommage, et puis aussi le reflet d'une époque.
Alors, un choix des plus grands violonistes du XXe siècle. Ce livre est frustrant. Il y a un grand choix. Je les connaissais pratiquement tous, je les avais tous entendus à quelques exceptions près. Alors, ce qui est frustrant dans ce livre, c'est qu'on aurait envie que pour chacun d'entre eux, vous ayez écrit le livre. Que pour chacun, alors c'est peut-être un projet donc que vous avez maintenant d'aller un peu plus profond et de nous dresser donc une véritable biographie de Jules Boucherie par exemple.
Alors c'est très gentil ce que vous dites Yves, mais il faut savoir quand même qu'en langue française il n'y a pas eu d'ouvrage sur les grands violonistes depuis 1913. Le dernier a été signé d'Alberto Bachmann et paru en France en 1913, c'est-à-dire il y a un siècle. Il y a eu certes quelques biographies de Jacques Thibault, de Christian Ferras, ou de choses comme ça. Mais il n'y a pas eu de livre sur les violonistes. Donc, j'ai voulu trouver un équilibre un peu impossible entre susciter l'intérêt du lecteur novice et donner quand même du grain à moudre au lecteur cultivé sur le sujet. Et vous êtes le second dans la semaine à me dire que finalement ça a presque un goût de trop peu. Et ben, c'est un compliment que vous me faites parce que ça donne envie de faire d'autres choses. Alors sur Jules Boucherie,
qui était le professeur très chéri d'Emmanuel Rosenthal,
Bien sûr. Alors vous verrez qu'à la fin du livre, en dehors des portraits, des notices biographiques qui avaient pour but de permettre au lecteur de retrouver la trace de tous les grands maîtres dont nos héros étaient sortis.
Car l'autre chose qui est formidable dans votre livre, c'est que pour chaque artiste, pour chaque violoniste, vous nous dites sur quoi ils jouaient et ce que sont devenus les instruments après.
Absolument.
Et là, on a vraiment quelque chose d'extrêmement émouvant,
c'est ce passage. Eh bien, comme beaucoup le pensent, ils ne sont que des passagers dans la vie d'un grand instrument. Quand vous avez eu la chance de jouer ou de posséder un très grand instrument de Guarneri del Gesù ou de Stradivari, Vous n'êtes qu'un passager dans sa vie. Il a déjà 3 siècles. On sait très très bien que plus tard, il sera dans les mains d'un autre. Et la filiation m'a intéressé sur le plan des instruments, mais m'a intéressé également sur la relation maître et élève. Et donc, comme j'ai cité beaucoup de grands maîtres, dont les talents de ces héros sont nés, il fallait que je donne aux lecteurs, à la fin, un petit opuscule qui leur permette de savoir qui étaient ces grands pédagogues. Alors, j'avais eu l'idée au départ, mais l'éditeur y était un petit peu réticent, de faire quelque chose de beaucoup plus exhaustif sur ces notices biographiques, et j'en avais écrit 120. On en a retenu 40, parce que sinon le rapport éditorial entre les portraits et les notices n'était plus bon. Mais certaines idées en cours vont faire que je vais les rendre accessibles aux lecteurs sous une autre forme.
Alors nous allons, à propos de passage, nous allons écouter pour commencer un grand passager de la musique du XXe siècle, Isaac Stern, dans le début du premier concerto en la mineure, BWV 1041 de Bach. Isaac Stern dans Bach et Jean-Michel Molcou, on sent quand on lit la notule que vous avez consacrée à Isaac Stern qu'il fait partie quand même de ceux que vous préférez. Alors vous avez vu que dans un livre, ou peut-être ou entendu parler que dans un livre récent de mémoire, le pianiste Earl Wilde dit des choses mais terribles, atroces, épouvantables, méchantes, horribles sur Isaac Stern. Vous en avez entendu parler ?
Oui, alors Isaac Stern est peut-être ce que je qualifierais d'équilibre idéal entre le virtuose et le musicien. On lui a reproché beaucoup de choses, notamment sur le caractère un peu plénipotentiaire qu'il a pu avoir sur la musique sur la côte est des États-Unis. C'était quelqu'un de très influent et c'était quelqu'un qui avait des choix très radicaux. Mais c'était un immense musicien jusqu'à la fin de sa vie. J'ai eu la chance, l'honneur de le rencontrer plusieurs fois, de l'inviter à la radio sur France Musique, de bavarder avec lui beaucoup. Et c'était un homme extraordinairement cultivé qui parlait couramment 5 ou 6 langues et qui avait un message, je dirais, extrêmement vrai et entier. Il considérait qu'un interprète devait se faire entendre, devait s'imposer. Il disait, quand on lui disait « Maître, vous avez rencontré souvent des enfants prodiges ?» Il disait « Des enfants prodiges, pas très souvent. Des parents d'enfants prodiges, très souvent. » Et il avait une conception de sa position qui était réelle, c'est-à-dire que ça n'était pas quelqu'un de peut-être très conciliant dans certains domaines, et beaucoup lui ont reproché, je dirais, des positions un peu dures. Mais il avait beaucoup travaillé, il n'avait pas facilement acquis le rang de grand violoniste qu'il a eu, contrairement à d'autres pour qui ça avait été instrumentalement plus facile. Il le disait très bien. Et il ne se considérait pas comme un grand virtuose. Mais, au-delà de tout ça, quand vous réécoutez ses enregistrements, mais c'est un immense musicien, immense, en musique de chambre, partout, jusqu'à un âge très avancé, même s'il avait perdu le grain magnifique et voluptueux de son qu'il avait. Tout ce qu'il disait avait un sens spirituel, mais extraordinaire. Et avec le recul, on se rend compte, enregistrement après enregistrement, que c'était un violoniste de très grande facture.
Et alors, hélas, on va pas pouvoir commenter chaque violoniste qui est dans le livre. Et donc, on a fait un choix tout à fait arbitraire en fin de compte. Mais justement, prenons chaque exemple que nous avons pris et faisons un peu comme vous l'avez fait dans le livre le background. Alors, Isaac Stern, il venait d'où?
Isaac Stern était né en Ukraine. Il est né en Ukraine et puis à 3 ans, ou à même moins d'un an, ses parents ont déménagé, sont partis à San Francisco. Et il a été élevé complètement aux États-Unis. Il n'était pas né sur le sol américain, mais il est devenu américain, bien sûr, et citoyen à part entière, et bien plus que cela. Mais il était né en Ukraine et il a appris aux États-Unis, d'un certain nombre de maîtres qu'il aimait beaucoup, comme Nahum Blinder ou même Persinger, qui avait été aussi le maître de Menuhin. Et puis, il a développé une carrière, je dirais, un peu à la force du poignet. Et il s'est fait connaître assez rapidement dans les milieux musicaux, je dirais, très évolués sur le plan intellectuel, notamment au contact de Casals, qu'il a fait partie des premiers musiciens qui sont venus jouer avec Casals à Prades dans les années 50. Et puis, il a su trouver un équilibre assez extraordinaire entre le musicien de chambre, puisqu'on sait quel trio formidable il a fait avec Eugène Listomine et Leonard Rose, les partenariats de sonates qu'il a su trouver avec...
Et puis une très belle et très stable carrière discographique également.
Très belle, très considérable, très important.
CBS.
Il s'était lié, Columbia bien sûr, il s'était lié d'amitié avec David Oistrakh, il s'était lié avec lequel il a fait des enregistrements. Et puis, il a su, au cours des années, adapter son répertoire créer des œuvres contemporaines, jouer des concertos écrits pour lui. Il était connu dans le monde entier. C'est à lui qu'on doit que le Carnegie Hall de New York, qui est l'une des plus célèbres salles de concert au monde, n'ait pas été transformée en parking. Il a défendu le Carnegie Hall et il a fait en sorte que ça reste ce que c'est. Il a voyagé en Chine, il est allé partout apporter un message, je dirais, d'éducation musicale. Et je crois vraiment que ça a été un incontournable acteur de la vie musicale du XXe siècle.
Alors, un autre violoniste, et là, on va pas dire le nom, on va d'abord l'écouter, et ensuite, on va en parler.
Thank you.
Canzonetta du concerto en ré majeur de Tchaïkovski par...
Eh bien, par celui qui s'était carrément approprié, au début du XXe siècle, le concerto de Tchaïkovski. À tel point que les organisateurs de concerts, quand ça n'était pas lui qui le jouait, ne voulaient pas le programmer. C'était devenu le concerto de Michael Mann. Michael Mann, c'est...
Un nom assez oublié, assez peu connu en France, en plus, vraiment assez peu connu en France jusqu'à il y a peut-être une dizaine d'années.
Alors, Michael Mann a connu une période de gloire considérable au début du XXe siècle. Il a été considéré, à juste titre, comme le premier très grand ambassadeur de la fameuse école de Saint-Pétersbourg, dirigée par Leopold Auer, dont sont issus aussi Zimbalist, Heifetz, Milstein, Tosha Seidel, etc. Hellman occupe une place un peu à part dans l'histoire parce que ça a été le premier qui a pu un peu sortir de son ghetto et transmettre en Occident les préceptes de la grande école russe de Saint-Pétersbourg. Michael Hellman était connu avant tout pour son golden tone, c'est-à-dire sa sonorité en or. C'était quelqu'un qui ne se souciait pas forcément de métrique ou d'une intonation parfaite. Ce qui comptait pour lui, c'était le sentiment. Une musique qui ne parlait pas du cœur, pour lui, n'avait aucun intérêt. Alors, dans les années 20, avant les années 20, il n'avait qu'un seul vrai concurrent, c'était Fritz Kreisler. Aucun n'atteignait un degré de popularité comme Hellman et Kreisler. Et puis, tout d'un coup, il y a eu le phénomène Heifetz, qui a débarqué en 1917 au Carnegie Hall et qui a été un coup de tonnerre terrible dans l'histoire du violon parce que tout d'un coup, il a complètement révolutionné le jeu et surtout la rigueur. Et Hellman n'a jamais voulu changer son jeu. Il a toujours gardé ce caractère vieille Russie. Et je dis dans mon livre que, écoutez, une cire des années 30 de Michael Mann, c'est un peu comme regarder une photo jaunie de Saint-Pétersbourg.
Et à cet égard, on a pu considérer que c'est plus tard que c'était un violiste un peu ancien style.
Old fashioned, absolument.
Il a joué assez tard.
Il a joué très tard. Ses derniers enregistrements datent de 1966.
Incroyable.
C'est-à-dire qu'il était très âgé. Mais il avait toujours gardé ce charme, ce timbre, cette sonorité, ce vibrato extrêmement large, etc. C'était une signature. Et il ne voulait en aucun cas s'en défaire.
Voilà pour Michael Mann. Un autre violoniste, une autre sonorité, quelque chose de radicalement différent.
nous écoutions donc un autre violoniste mystère, issu, sorti de ce livre consacré par Jean-Michel Molcou, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, Les grands violonistes du XXe siècle, paru chez Buchet-Chastel. Alors, qui est-il si on ne l'a pas reconnu ? Peut-être on peut se tromper.
Le virtuose né. Le virtuose né, quelqu'un qui disait qu'à 15 ans, le violon ne posait plus aucun problème technique pour lui. Il n'y en a pas eu beaucoup.
Encore un artiste qui a une carrière extraordinairement longue.
Énorme.
Qui
est toujours vivant.
Oui, bien sûr.
Qui est toujours vivant, qui est très âgé maintenant, qui ne joue plus, qui a encore, dans un passé très récent, été au jury des plus grands concours internationaux. C'est le grand Ruggiero Ricci.
Lui aussi, plutôt méconnu en France. Ou sous-estimé.
Oui, sous-estimé, parce que on l'a souvent relégué un peu au titre de virtuose.
Voilà. Et dans certains répertoires.
Mais la discographie de Ricci,
énorme,
que j'ai écrite, est quelque chose de gigantesque.
Ah oui, Jean-Michel, vous avez, à plusieurs reprises, quand on lit ce livre, vous donnez comme source le fait que vous avez rédigé beaucoup de biographies. C'est une chose que font beaucoup les anglo-saxons, qu'on fait beaucoup moins en France. Vous avez consacré donc des discographies à de grands interprètes et qui font référence, et en particulier donc à Ruggiero Ricci.
Alors, ces discographies que j'écris depuis maintenant une trentaine d'années ont été régulièrement publiées dans la revue britannique de Strad. Ce sont des travaux qui demandent beaucoup, beaucoup de minutie, de recherche à travers des catalogues. C'est un peu un travail de fourmi, mais je trouve que c'est une très fidèle façon de comprendre le répertoire, le parcours d'un musicien.
C'est de l'histoire. C'est l'histoire du disque.
Et donc, j'aime beaucoup le disque en tant qu'objet, en tant que vecteur, en tant que tout ce qu'on veut. Et les discographies ont toujours pour moi été la façon de cerner un personnage. Alors, Ricci a une discographie considérable, très centrée sur la virtuosité, c'est-à-dire qu'il a enregistré 5 fois l'intégrale des Caprices de Paganini, record absolu. Il a enregistré toutes les pièces de Sarrasate, de Ernst, de Vieux-Temps, de Wieniawski. C'est vraiment quelqu'un qui a été surtout connu pour ça. Mais il a aussi enregistré tous les grands concertos. Et il a enregistré un petit peu de musique de chambre, avec des pianistes comme Julius Katchen ou Frédéric Goulda, ce que très peu de gens savent, pour Decca dans les années 50. Ricci est un phénomène. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois sur scène. C'était impressionnant. C'est quelqu'un pour qui l'instrument ne semblait présenter aucune difficulté. Et il disait d'ailleurs, j'ai beaucoup plus appris de Paganini que de tous mes maîtres. C'est-à-dire que, à force d'avoir fouillé les principes de virtuosité dans leurs plus infimes recoins, il était devenu le véritable descendant de Paganini. Et avec cette facilité, cette aisance, cette insolence, qui sont l'épanage des virtuoses, mais avec un grand V. Voilà.
Ruggiero Ricci. Alors, le suivant, alors nous ne sommes pas en direct, donc nous ne pouvons pas faire de concours en direct, téléphoner, comme sur Radio Classique, téléphoner à ce numéro surtaxé, ça va vous coûter 34 centimes la minute. Non, on n'est pas sur Radio Classique, on est sur les podcasts Cobuzz. Donc je ne peux pas faire un concours pour savoir qui joue maintenant, mais normalement, ça devrait être facilement gagné.
Thank you.
nous écoutions le concerto de Erich Wolfgang Korngold par sa référence.
Ouais, par sa référence absolue. Par celui qu'il a créé, par celui qui en a fait l'enregistrement auprès duquel tous les autres se mesurent depuis, par celui que tous les plus grands violonistes du XXe siècle ont considéré comme leur maître. Vous savez, David Oistrakh disait, il y a les violonistes et puis il y a Heifetz. Jascha Heifetz, c'est la révolution apportée au violon d'une portée aussi importante que celle de Paganini. Il y a eu avant Paganini, après Paganini, il y a eu avant Heifetz et après Heifetz. Heifetz a élevé le niveau d'exigence instrumentale à une altitude qui n'a jamais été dépassée. Pendant très 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 longtemps, il a été pour tous les violonistes vivants un cauchemar. Gietlis le dit. Pauvre autre violoniste. C'était un homme d'une extraordinaire intégrité, rigueur, qui a balayé un certain nombre de principes, je dirais, discrètement aléatoires, mais non sans charme, des traditions du XIXe siècle.
Moderne.
Oui. La modernité en violon, c'est Heifetz. Les doigtés, les coups d'archet, la précision métrique, l'intonation, et surtout, le respect absolu du texte. Heifetz est un monument dans l'histoire du violon. C'est quelqu'un qu'on peut écouter 40 ans après et dont rien n'a vieilli. Il était difficile de caractère. Il a terminé très seul. C'est quelqu'un qui a connu une gloire absolument extraordinaire, qui a sillonné les 5 continents, qui a donné des centaines de concerts aux armées pendant la guerre, qui s'est forgé une réputation d'intransigeance, qui a bâti une discographie qui est l'une des plus fabuleuses jamais gravées par un violoniste, en termes de répertoire et de qualité.
Et entièrement, je pense,
presque entièrement disponible. Chez RCA.
Et
presque
entièrement disponible sur Cobuzz.
Quasiment.
Tout a été fait sur Cobuzz. Ouais. Ça, c'est formidable, la musique en ligne.
Absolument.
Un clic.
Absolument.
Vous êtes au fin fond de l'Aveyron.
Absolument.
Vous avez tout
a été
fait. C'est formidable.
Le son d'Aifet, c'est comme celui d'Hermann, c'est une signature. C'est une signature parce que, pour peu qu'on ait une oreille, mais même pas très exercée, on ne peut pas le confondre avec quelqu'un d'autre. C'est un son tranchant, pénétrant. C'est un son d'une précision que j'ose dire chirurgicale.
Alors, la technique, et vous êtes un expert, la technique, la beauté du son,
ouais,
et la musicalité.
Absolument.
Alors, Heifetz, c'est un peu plus que tout. Enfin, c'est toutes les qualités de tout le monde au plus haut niveau.
C'est ça. C'est un peu ça. C'est cette synthèse absolue qui est liée probablement à une aptitude exceptionnelle à l'instrument, d'une part.
Une certaine aptitude, oui.
Mais il est vrai que tout au long de sa vie, on lui a reproché d'être froid. C'est vrai qu'il avait un visage impassible, qu'il était très intransigeant, qu'il était très dur avec les quelques élèves qu'il a pu avoir. Mais c'était un travailleur acharné. Il ne faut pas croire qu'il était dilettante. Jamais. Et donc, il considérait probablement que ce niveau d'exigence qu'il s'imposait à lui-même devait l'être aux autres.
Alors, finalement, quand on a un homme tel que Heifetz qui on ne va pas dire qu'il domine, mais qui est tellement incontestable et qui semble avoir les qualités de tout le monde pratiquement réunies en un seul homme, on se pourrait se dire, est-ce que tous les autres, finalement, ce ne sont pas leurs petits défauts qui les rendent si attachants?
C'est vrai, Yves, ce que vous dites. Mais vous savez, il y en a beaucoup qui n'ont pas survécu au phénomène Heifetz. Certains dont la carrière a été carrément brisée. Et des gens qui venaient du même creuset. Je pense par exemple à Toja Zeidel ou à d'autres violonistes, mais prodigieusement doués, qui n'ont pas su gérer cette carrière, qui n'ont pas pu résister à cette tornade. Et il y en a quelques-uns, à l'époque, qui ont bien tiré leur épingle du jeu. Par exemple, Zino Francescatti ou Nathan Milstein ou quelques-uns comme
Milstein.
Ça, qui ont pu résister parce qu'ils avaient une personnalité, un charme et d'autres qualités qui faisaient que c'était une alternative. Mais je dirais que la personnalité d'Heifetz n'était pas comprise par tous. Et certains étaient beaucoup plus sensibles au charme extraordinaire, à l'humanisme de Medwin, évidemment. À ce que sa sonorité, son grelot dans la voix pouvait avoir de troublant, même d'envoûtant. Et on peut aimer les peintures de Botticelli, mais on peut aussi aimer Paul Klee, et on aime autant la peinture. Donc il y a entre ces gens des mondes en matière esthétique qu'ils défendent avec des moyens différents, et c'est ce qui fait la prodigieuse histoire de ce violon.
Vous parliez de creuser. Alors il y a une question qu'on ne peut s'empêcher quand même de se poser, surtout quand on a un goy comme moi, c'est pourquoi sont-ils si souvent juifs? Pourquoi viennent-ils tous du même coin dans le monde?
Il y a des thèses entières qui ont été écrites là-dessus. Vous savez, certains ont dit que pour fuir, c'était plus facile de partir avec un violon qu'avec un piano.
Étonnant. Et on parlait de charme, et on va se quitter en écoutant un violoniste, qui en effet est le charme personnalisé, Ivry Gitlis. Et qui est encore vivant, qui est parmi nous, et je vous propose qu'on l'écoute et puis on va le commenter par la suite. Nous écoutons un enregistrement, on ne va pas faire là d'énigme, on va écouter l'un de ses plus beaux enregistrements qui est le concerto de Berg. Ivry Gitlis, concerto de Berg. Ivry Gitlis, vraiment artiste miraculeux, qui peut-être, disons-le peut-être, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, a eu finalement, au top, il a été très court, artiste encore en activité, qui joue, qu'on peut écouter, que j'ai entendu cet été à Marseille, en plein air, au Théâtre Sylvain. Extraordinaire dans ce concerto de Berg, un artiste qui est une... débordant, enfin...
Hors normes.
Hors normes. Qui est enregistré avec des artistes de variété, avec Léo Ferré, avec...
Hors normes, c'est un musicien totalement inclassable. Ivry Gitlis, c'est... Comment vous dire ? Il faut le connaître pour le comprendre. Mais il suffit de l'écouter à sa très très grande période, c'est-à-dire les années 50, pour comprendre que là, vraiment, il figurait au premier rang des grands violonistes. Ses enregistrements du concerto de Sibelius avec Yasha Horenstein, du concerto de Berg que vous venez de passer, Grand Prix du Disque 1955, avec du concerto de Béla Bartok qui est pour moi LA référence dans sonate. Ce domaine. Je n'aime pas dire la référence, mais j'en ai écouté vraiment beaucoup et celle-ci m'émeut plus que les autres. Elle est électrique, elle est... Bon. Donc Ivry, c'est un homme fascinant.
Quelques pierres blanches.
Qui est d'une fraîcheur intellectuelle, musicale, exceptionnelle. Et qui a montré, par un parcours très personnel, qu'on pouvait être quelqu'un d'autre que ceux qu'on veut mettre dans des moules.
Qui n'a pas voulu avoir une carrière formatée, qui n'a pas voulu se laisser faire d'une certaine manière, qui a certainement aux dépens peut-être d'un confort de vie.
Certainement, mais il a toujours joué comme il l'a senti. Et vous savez, quand on écoute les enregistrements qu'il a fait pour Philips, des concertos d'Ieniavski, je défie quiconque
et qu'on reconnaît plus touchant. Et qu'on reconnaît à la seconde.
Ah oui. À la seconde. Au vibrato, tout de suite. Il fait partie de ces très rares. Dont la sonorité est encore plus qu'une signature. C'est un sceau. C'est incopiable.
Alors voilà, Ivry Gitlis, personnalité totalement hors norme. Alors, ce livre, il y a combien de violonistes ? Combien de
biographies ? Il y a 50 portraits.
50 portraits. Alors évidemment, nous avons parlé de 6, 7 violonistes au cours de cette rencontre. Alors, on va citer en vrac, Accardo, Léopold Auer. On aurait pu parler de gens aussi différents que Campoli. Ou de météores tels que Joseph Hasid. Pour vous, quel est votre top 5 de votre cœur, je veux dire ?
C'est
Quand on
a baigné comme moi depuis
on les aime tous.
40 ans, c'est très très difficile.
C'est comme ça le vin, c'est époques. Difficile. De... Voilà, ça, et dépend ça dépend des moments.
Répertoires aussi. Il y a des choses dans lesquelles je suis convaincu que Heifetz reste une référence. Il y en a d'autres dans lesquelles pour moi c'est Oistrakh. Peut-être que celui qui allie tout ce que j'aime chez un violoniste, c'est Nathan Milstein. Mais si on cherche la grâce, c'est Grumio, etc., etc.
Et puis des histoires extraordinaires, des destins brisés.
Joseph Hasid, mort très très jeune et interné pendant les dernières années de sa vie pour une schizophrénie grave. Michael Rabin, décédé dans des circonstances très difficiles à 36 ans, après avoir été probablement le violoniste américain le plus brillant de cette génération. Et puis
Christian Ferras, bien entendu, qui est le grand français.
Avec Zino Francescatti. Ouais. Et Jacques Thibault. Et
c'est Francescatti dont on se rappelle presque pas qu'il était français. On l'a tellement vu sur disque CBS américain.
C'est vrai qu'il a été reconnu tardivement en France, qu'il est parti, qu'il a fait l'essentiel de sa carrière aux États-Unis, et puis qu'il a coulé une douce retraite près d'Aix-en-Provence.
Des caractères haut en couleur comme Henrik Schering.
Très haut en couleur.
Pourtant, mais des
magnifiques
bacs,
magnifiques. Magnifiques maîtres,
oui. Et puis, on pourrait, énormément d'artistes, mais des gens très sérieux, ou Schneider Hahn.
Oui, très professoral, très académique, mais ça fait partie des gens qui ont compté beaucoup dans les années 60, qui ont une très belle discographie, qui ont eu un parcours extrêmement intéressant, et qui permettent de comprendre la notion d'école, la notion de tradition. Cette tradition allemande, depuis Busch, était tout à fait différente de la tradition russe ou de la tradition franco-belge, par le jeu, donc par le son, et donc par l'esprit. Et ces qualités d'inspiration étaient héritées également directement du jeu. Car ceux qui cherchaient à avoir un son plus puissant, plus portant, n'aimaient peut-être pas, aimer moins peut-être les choses fragiles dans le répertoire Et au contraire, ceux qui étaient très sensibles à une certaine nostalgie, à une certaine nonchalance, à une certaine fragilité du ton, par exemple de l'école franco-belge, étaient des interprètes absolument idéaux de la musique de Fauré, de Saint-Saëns, de Debussy, de Ravel. Voilà.
Un dernier nom, avant que nous écoutions un dernier extrait musical, parce qu'on parlait tout à l'heure de Heifetz, un homme qui dominait incontestablement et qui avait un répertoire extraordinaire. Alors, on n'a pratiquement pas parlé d'Oistrakh.
Vous savez, il faudrait lui consacrer une émission entière.
Et Oistrakh, bon, c'est un peu comme Heifetz.
Oui. Oistrakh a régné sur le violon soviétique, voilà, quasiment sans partage, pendant toute sa carrière. Il
avec
a été reconnu tardivement.
Avec la finesse, l'immense répertoire, la capacité de jouer bien Debussy comme
tout,
de jouer.
Tout, absolument tout. Je ne connais pas un enregistrement.
La beauté de son, la technique.
Qui ne soit pas un modèle. Oistrakh a été connu en Occident, surtout à partir des années, du milieu des années 50, parce qu'avant, le bloc soviétique l'a empêché de quitter les frontières de
ce fameux bloc.
Et puis, il est mort en 74 d'un accident cardiaque, alors qu'il s'était déjà un peu tourné vers la direction. Sa gigantesque discographie est là pour témoigner du fait que c'était un artiste universel et en plus d'une bonté exceptionnelle.
Nous allons nous quitter, Jean-Michel. Jean-Michel, je crois que vous êtes, vous devez nous quitter déjà maintenant parce que vous avez travaillé au violon, n'est-ce pas ?
C'est vrai. J'ai des répétitions de musique de chambre plusieurs fois par semaine. C'est vrai.
Voilà, donc quelqu'un qui non seulement commente, mais également pratique, à la fois pratiquant et croyant. D'une certaine manière. Et on va se quitter avec un artiste, alors également un autre caractère tout à fait particulier, très différent de certains autres qu'on a cités aujourd'hui, Arthur Grumiaux, qui dans cet enregistrement s'accompagne au piano, car il est également un très très beau pianiste.
Alors Arthur Grumiaux, c'est la très grande tradition franco-belge héritée de son maître Dubois, lui-même élève du grand Isaïe. C'est l'élégance à son plus haut niveau. C'est un interprète exquis dans Mozart, entre autres. Le disque auquel vous faites référence est unique dans l'histoire du disque, puisque c'est la seule fois où un interprète a enregistré en re-recording sur deux instruments différents. Ça n'est pas la première fois qu'on faisait du re-recording, car Heifetz, déjà dans les années 40, avait enregistré un concerto de Bach en jouant les deux parties de violon, le double. Là, Grumiaux fait encore plus fort. Il enregistre la partie de violon et la partie de piano en re-recording. C'était un très bon pianiste, mais c'était un violoniste miraculeux. Ouais, et on le connaît aussi beaucoup pour le duo qu'il a formé pendant des années avec Clara Askill, qui est dans l'histoire peut-être l'un des trois ou quatre duos violon-piano les plus exceptionnels.
Et de caractère artistique qui s'accordait, c'est le cas de le dire,
divinement.
Je rappelle donc le titre de ce livre de Jean-Michel Molcou, Les grands violonistes du XXe siècle, qui vous fera passer un beau voyage à travers toutes sortes de noms, qui vous donnera envie d'écouter tous ces grands artistes qui, heureusement, sont tous maintenant à portée d'écoute en quelques instants. C'est un confort extraordinaire. Merci beaucoup, Jean-Michel, de nous avoir visités et à très bientôt pour le second volume.
Avec plaisir.
ivresse.com. Rencontre par Yves Rézel.